Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
On est tous les deux passionnés d'aviation.
Et aussi de voyage.
RTL.
On a décidé de parcourir la planète.
Pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles.
Jusqu'à 22h.
L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe. Participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le 15 janvier prochain, Clémentine Bacry, Adrien Normier, vous venez de les entendre, s'envoleront, si tout va bien, à bord de leur ULM à la rencontre de scientifiques du monde entier. Leur objectif, apporter aux chercheurs un appui aérien pour cartographier, référencer, mieux connaître notre planète. Bonsoir à tous les deux.
Vous allez bien ?
Thomas, Sidonie, bonsoir.
Vous allez bien ? On vous avait reçu le mois dernier pour nous exposer en quelque sorte votre plan de vol, ce tour du monde de 3 ans, baptisé des ailes pour la science, auquel on s'associe à RTL avec grand plaisir. Alors vous en êtes où ? Il va bien cet avion, il est prêt, il est construit, vous en êtes ?
Au poil.
C'est vrai ?
C'est même pas un avion, c'est un ULM.
Oui,
ça,
mais
c'est
bon.
Encore plus petit. Oui. Et en fait, c'est pas vraiment prêt pour l'instant.
Parce que pour nous, c'est un avion, mais en fait, pour vous, c'est important de dire que c'est un ULM.
Ouais, c'est pas classé pareil, ça vole toujours comme un avion, mais c'est encore plus petit. Et là, il est à Sao Paulo en train d'être préparé. Donc,
mais qui le prépare ?
Et ben alors, c'est les Brésiliens, l'entreprise sur place qui s'appelle Edra, qui s'occupe de le concevoir. Donc, il y a déjà la structure générale. Il manque les ailes et le moteur. Et si vous avez des photos, on en a mis sur
RTL.fr. Ouais. On peut voir.
Vous verrez, ça ressemble un peu à un dauphin. Et c'est chouette parce que bah, finalement, notre machine, ça ressemble pas mal à un dauphin. Ça vole et ça va dans l'eau aussi.
Ouais, alors, mais qu'est-ce qu'ils font au Brésil, là, s'il n'est pas prêt encore ? Il faut leur mettre des coups de fouet un peu, là. C'est quoi ?
T'as vu les photos, Thomas ?
Oui.
Bon, alors, faut pas paniquer. Hein. Sur les photos, effectivement, on voit le fuselage, on voit les ailes. Mais en fait, c'est vraiment le plus dur. Parce que la production d'un avion léger aujourd'hui, en fait, ce que fait le concepteur de l'avion, c'est vraiment imaginer la cellule et les paramètres de vol. Et ensuite, c'est beaucoup de travail de composite, beaucoup de travail d'assemblage. Et la dernière partie, mettre le moteur et les instruments.
C'est les finitions, quoi.
C'est vraiment les finitions. Mmh. Donc là, le gros est fait, même si on a l'impression que c'est.
Donc vous n'êtes pas en retard.
On est rassurés.
Sur le trait.
Clémentine et Adrien, vous nous aviez expliqué le mois dernier que c'était des élèves d'une école primaire française-américaine qui planchaient sur le look, en fait, de l'ULM. Alors ça va ressembler à quoi ? Vous avez eu le.
Et bah, c'est super
le plan final.
Ils nous ont envoyé les petits dessins.
Ouais.
Donc, alors, étant donné qu'ils avaient, déjà connaissance des futures missions qu'on va réaliser et celles qu'on a déjà réalisées, ils ont fait des dessins qui représentaient pas mal les missions. Donc il y a des dauphins, il y a des baleines, il y a des volcans, et puis parfois ils ont représenté la Terre, ou alors ça peut être des dessins un peu imagés, juste des jolies couleurs qui sont positionnées comme ça.
Donc vous allez emmener tous ces dessins dans les airs, c'est ça ? Ils seront reproduits sur votre ULM ?
Alors pas tous, faut qu'on fasse un choix. Et alors du coup,
c'est dur ça.
C'est super dur.
Il va y avoir des larmes.
Oui, c'est pas très sympa.
Non, va pas y avoir des larmes parce que c'est.
Surtout que j'allais vous faire un petit dessin moi aussi. Alors bon.
L'idée c'est de s'associer et puis de convier les auditeurs et tous ceux qui veulent donner leur opinion sur plutôt tel type de dessin ou tel type de dessin. On y va et on essaye d'en embarquer le maximum à bord.
Et le nom de cet hydravion parce que ce sera un hydravion. Hein.
Ils sont toujours en train de chercher le nom.
Ouais.
Donc d'ailleurs les auditeurs peuvent s'y associer et proposer les noms qu'ils désirent. Donc l'idée c'est que ça soit un nom qui soit, étant donné que ça va être un tour du monde, qui soit compréhensible ou au moins prononçable dans tous les pays.
D'accord, joli défi.
Et à partir de là, tout est ouvert.
Et donc on attend vos propositions de dessins et de noms pour cette ULM Hydravion sur RTL.fr. Alors si tout va bien, départ prévu mi-janvier, c'est ça ? 15 janvier 2016 à peu près ?
Alors, le 15 janvier, les essais en vol, parce que c'est un avion qui vient d'être fabriqué, donc il faut le tester. Il y a le pilote de l'usine qui fait un tour avec, vérifie que tout va bien. Les essais en vol sont terminés. On a réussi à rassembler tout le matériel de survie, l'équipement spécial dont on a besoin pour les missions. On se met à bord et en route, initialement, vers l'Argentine. Argentine, et ensuite, là, on a pris conscience, il y a à peu près 3 semaines, juste après vous avoir parlé, d'un vrai souci. C'est qu'on a une année à phénomène El Niño.
El
Niño.
Voilà. Et ça veut dire qu'on va avoir des précipitations et des événements climatiques extrêmement violents sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Mmh. Or, c'est justement sur la côte ouest de l'Amérique du Sud que sont prévues la majorité des missions. Et c'est un petit avion, il peut pas traverser les Andes entre l'est et l'ouest. Donc, faut qu'on fasse un choix. Est-ce qu'on remonte par l'est des Andes, auquel cas, faut qu'on génère de nouveaux projets scientifiques et de nouveaux partenariats de recherche parce que la majorité est à l'ouest. Soit
ça veut dire que vous allez abandonner quelques projets à l'ouest forcément.
Voilà. Soit on fait une analyse qui nous dit on va être capable de protéger l'ULM dans un hangar sur toutes les zones qui sont critiques. Mmh. Et on prend le risque de passer par la côte ouest de l'Amérique du Sud en sachant qu'il y a ce phénomène
plus exposé aux précipitations liées à El Niño qui sont importantes, puisque si je ne me trompe, le rallye Paris-Dakar qui est maintenant en Amérique du Sud a annulé certaines étapes dans les pays qui pouvaient être frappés par El Niño, donc c'est pas rien. Et puis vous nous aviez raconté, si je me souviens bien, que dans certaines étapes il n'y a pas forcément un hangar disponible, un hangar protégé, un hangar
La plupart du temps même il n'y a pas, c'est-à-dire que quand il y a c'est génial.
D'accord.
Ça veut dire que vous dormez dans votre hydravion parfois.
Alors, vous dormirez? Non, on dort en général dans des endroits, dans des lits.
Ouais.
Mais s'il y a une tempête, il faut trouver un moyen de protéger l'avion.
Alors,
c'est ça.
Nous, l'idée, c'est mettre l'avion à l'abri et de voir la tempête venir. On peut se déplacer assez rapidement si on la voit venir, partir, se mettre dans tout le réseau en fait de hangars qu'on a repéré avec des accords qu'on a.
Alors, j'imagine que vous êtes en train de faire vos bagages là, Clémentine, Adrien, vous êtes en train de prévoir tout ce qu'il faut dans la checklist que vous avez préparée. Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment?
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a testé le matériel de survie qui nous avait été offert par le partenaire Zodiac Aerospace. Donc ça fonctionne toujours. On n'a pas grossi, on n'a pas maigri, on rentre dedans.
Vous l'avez testé comment? C'est-à-dire vous avez essayé juste?
Oui, on a remis toutes les combinaisons.
La grosse angoisse de Clémentine, c'est que les combinaisons de survie qu'on
la boudine
avait... Non, mais c'est presque ça. on avait une question sur en dessous il y a des polaires pour l'isolation thermique. Oui. Et on se demandait si on rentrait toujours dedans parce qu'on a pris un peu de gras.
Donc c'est bon, ça rentre dedans.
Check.
Et la sécurité, est-ce qu'il y a des pays, alors vous nous avez parlé de la météo, mais est-ce qu'il y a des pays à risque, je sais pas, qui politiquement évidemment on pense forcément un peu à ça en ce moment, sont plus dangereux que d'autres dans les étapes que vous avez prévues?
Bien sûr, il y a toute une zone qui est un peu compliquée, particulièrement le Moyen-Orient. Mmh. et l'Afrique du Nord et Moyen-Afrique, on va dire, en ce moment. Maintenant, on sera dans cette zone-là que pour 2017. Donc les choses ont largement le temps d'évoluer d'ici là. Et donc on a évidemment un trajet qui est déjà préparé, mais il est soumis à variation en fonction justement de ce type d'évolution.
Puissiez-vous dire que la situation se sera apaisée d'ici 2017 dans cette région du monde. Allez, on va être dans un mood, pardon, pour cet anglicisme, un message d'espoir et de positif en restant avec vous. On vous raconte, ce que vous faites en ce moment, parce que vous avez du boulot, mais en région parisienne. C'est ce qu'on va expliquer dans un instant.
Et c'est comment, vue d'avion, un soir?
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Clémentine Bacry et Adrien Normier, nos invités partiront dès janvier prochain parcourir la planète à bord de leur hydravion. Ils vont proposer... Qu'est-ce qu'il y a, Thomas?
Thomas me parle en même temps.
Ça vous dérange pas? J'étais en train de parler aux auditeurs d'RTL.
Je vous assigne parce que j'ai une question idiote à leur poser. Est-ce que dans votre pactage, vous avez prévu un pyjama rêveur?
Mais maintenant qu'on a écouté la publicité, on va s'en procurer. Ah, c'est fondamental.
Parfait, ça c'est
donne
important.
Super envie, mais on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble, n'empêche, un pyjama rêveur, parce qu'on n'a toujours pas compris. Alors, avec nos deux invités qui proposent leurs photos aériennes à des chercheurs du monde entier. En attendant, Clémentine et Adrien, vous êtes bien en France. Et vous étiez, par exemple, dans l'Oise, dimanche dernier, c'est ça, sur le site de la Mare aux Canards, près de Noyon. Est-ce que d'un point de vue archéologique, ce site de Noyon est extraordinaire?
Oui.
Et pourquoi? Pour vous?
Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Mais oui, racontez-nous votre dimanche là-bas.
C'est une des plus belles villas gallo-romaines qu'on ait trouvées dans le nord de la France. Pourquoi est-ce que pour nous elle est si folle? C'est parce que c'est vraiment cette villa qui a lancé des ailes pour la science en 2011. En fait, on a une copine qui s'appelle Marjolaine de Mulder, elle est archéologue, et elle nous avait dit, Adrien, toi qui pilotes des petits avions, est-ce que ça t'embêterait de venir faire des photos aériennes de ma zone de fouille? Et en fait, c'est sur le long du canal Seine-Nord. Elle fouillait une zone qui jouxte le canal. Mmh. Et il fallait faire des photos aériennes de cette zone pour qu'ils puissent lever des plans. Et quand on fait le survol, on voit que juste à côté, dans le champ d'à côté, on voit vraiment dans les blés comme les plans d'un ensemble d'habitations.
Ils étaient passés à côté?
Alors, c'est pas qu'ils étaient passés à côté, c'est que l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, à chaque fois qu'il y a un ouvrage d'art, va creuser et regarder ce qu'il y a pour éviter d'aller détruire des structures archéologiques. Ouais. Donc, l'audit avait lieu sur le long du canal. Nous, on vient avec l'ULM. Là, on voit que en fait c'est juste la partie ils appellent ça la pars rustica, c'est la partie agricole en fait de la villa qui est un vrai petit village. Et on voit dans le champ d'à côté, la pars urbana, maintenant je sais que ça s'appelle comme ça, qui est en fait l'équivalent de la petite ville dans le champ d'à côté.
C'est génial.
Voilà, plus d'une trentaine de bâtiments. Le lendemain matin, 6h du mat, on avait le directeur de l'archéologie qui nous disait: "Oh, bah c'est extraordinaire, faut absolument que vous reveniez faire d'autres photos parce que l'agriculteur allait couper les blés."
Faites bien le directeur.
Elle est bien votre imitation, je vais apprécier, je pense.
Le lendemain matin, il coupait les blés, et les blés coupés, on ne verrait plus les différences de hauteur de pouce, parce que c'est les différences de hauteur de pouce des blés
c'est
qui
pas
nous permettaient
vrai.
De voir le plan.
Si.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a le blé qui pousse dans le champ, eh bien, le blé, il va récupérer de l'eau en profondeur. Et lorsque il va rencontrer de la pierre, donc le reste de la structure archéologique, il va plus pouvoir récupérer d'eau. Et du coup, il va pousser moins haut. Alors que le blé d'à côté, celui qui va pouvoir aller plus profond parce qu'il n'y a pas la pierre
d'accord.
en dessous, va pouvoir récupérer plus d'eau et donc pousser plus haut.
Mais ça veut dire que vous avez l'œil tous les deux, vous savez reconnaître ce genre de choses?
Bah, ça se voyait, c'était comme une diapositive en fait, avec les couleurs qui étaient inversées, et on voyait vraiment le plan.
Et c'est là que vous êtes dit, on peut aider des scientifiques ailleurs que dans le nord de la France.
Exactement.
L'idée est née là, des ailes pour la science, c'est ça?
C'était le point de départ. Alors cette photo là, on l'a mis sur le site web, donc si vous voulez jeter un œil à quoi ça ressemble vu du ciel, c'est super.
Sur rtl.fr.
Là,
et là, donc ce week-end, vous étiez encore à bord d'un ULM
Qu'est-ce que vous avez
fait?
Alors là, on a un truc super. On a des gens. Alors, Parrot, c'est une entreprise française qui fabrique des drones.
Des drones,
et
oui,
qui est partenaire de Des Ailes pour la Science. On en
depuis
est très
fiers. Depuis peu, qui est venu nous voir en disant: on a entendu dire que vous galériez, parce qu'il y a certains endroits où votre ULM, aussi magique qu'il soit, vous ne pouvez pas aller. À l'intérieur d'un volcan, vous ne pouvez pas aller. Mm-hmm. Votre ULM, c'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo, donc c'est 3000 mètres maximum. Et puis, vous avez des projets de recherche dans les Andes à 5000. Comment vous allez faire pour monter là-haut? Regardez, nous, on vous prête des drones.
C'est génial.
Donc, mais le problème, c'est que nous, on n'y connaît rien aux drones.
Donc vous allez devoir vous former pour utiliser les drones, c'est ça?
Exactement. Et du coup, on se fait la main sur ce site, à Noyon.
Et alors, ça se pilote comment, un drone?
Clémentine?
Alors, vous avez Adrien dans le studio qui, lui, a toujours piloté des avions télécommandés depuis qu'il est tout petit. Moi, c'était pas du tout mon truc. Donc, j'ai découvert. Alors là, à la différence d'un tout petit avion télécommandé, c'est quelque chose qui se programme sur l'ordinateur. On programme en fait son trajet. Ensuite, on le lance. Vraiment, on le lance dans les airs. C'est assez ludique. Et en fait, tout seul, cette petite machine volante va suivre le parcours qu'on lui a indiqué sur l'ordinateur et revenir ensuite avec toutes les informations.
Et alors, de quoi? Des images, c'est ça? Et le drone revient avec des images, j'imagine?
Alors, il y a certains des drones dans lesquels il y a des petites caméras.
Ouais.
Et là, ça fait vraiment de la photographie ou de la vidéo aérienne. Ou parfois, ça peut être différents capteurs.
Et alors là, dans l'Oise, vous utilisez quoi comme capteur?
Alors,
Adrien,
là, c'est un test pour nous. Là, à l'instant T, les blés qui étaient grands, là, dont je vous ai parlé, ils ont été coupés à ras, replantés, et ils sont poussés d'à peu près 15 cm. On ne voit rien. C'est-à-dire que c'est un champ normal. Et nous, on sait qu'en dessous, il y a une villa galéromène.
Il n'a toujours pas été fouillé. Ils le savent que ça existe, mais ils n'ont pas encore commencé.
Ils n'ont pas commencé les fouilles. D'accord.
Ça commencera en janvier-février. Ouais. Alors, du coup, là, on se dit que c'est un super terrain d'étude pour essayer de détecter dans ces jeunes pousses de blé, voir si on ne réussit pas à avoir des informations pour cartographier ce qu'il y a en dessous.
Oui.
Avec les drones.
Puisqu'on sait que ça existe, il y a juste à vérifier qu'on le voit avec d'autres capteurs.
Vous êtes super complémentaires. Hein. Bravo. Hein.
Donc voilà, là, il y a deux idées. Il y en a une, c'est de dire, avec un petit capteur qui va être capable de nous dire la qualité de la photosynthèse des plantes, on va pouvoir voir la santé des plantes dans le champ.
Attendez. Il y a des drones qui sont capables de faire ça?
Oui. Alors,
comment ça marche?
Ça a été développé pour l'agriculture de précision. On a un champ, on ne veut pas l'inonder bêtement d'engrais ou de pesticides. On veut juste aller traiter les problèmes là où ils sont. Donc on va cartographier ce champ avec un drone. Là par exemple, un petit Ibit chez Parrot. Et on va réussir à avoir une carte des endroits où les plantes ont besoin de plus d'eau. Des endroits où il faudrait peut-être mettre un tout petit peu d'engrais. Des endroits où on a une attaque de petits des animaux ou des dégâts qui sont faits par des rongeurs. Et ensuite, on va pouvoir faire monter dans le tracteur un petit soft qui va faire en sorte que le tracteur va distribuer tout seul.
Petit soft, c'est quoi? C'est un petit logiciel?
Un petit logiciel. Voilà. Qui va comprendre la position GPS du tracteur et ensuite aller corriger ce qu'il faut comme eau, comme.
D'accord. Alors, est-ce que ça marche pour votre projet, là, ce drone à chlorophylle, si j'ose dire?
Alors, pour notre projet, donc ça, on avait un gros espoir de voir des différences, de voir les pierres en dessous. Eh ben non, pas du tout, à l'instant T.
Le bide. Bon,
donc,
ok.
Le bide complet pour l'instant.
Donc, vous utilisez quoi comme système?
Alors, voilà. Ça, c'était dimanche dernier. Et là, on met en œuvre un autre système, on teste des différences de température du sol qui devraient, au lever du jour, être importantes à la verticale, des endroits où il y a des cailloux et des endroits où il n'y en a pas.
Parce qu'en fait, toujours sur ce même site, ouais. lorsqu'il y a des cailloux, donc en sous-sol, eh bien normalement, ils vont pouvoir retenir la chaleur différemment de, des endroits où il n'y a pas cette terre. Ce qui fait qu'avec des différences de température, en survolant, on devrait voir que la terre ne réagit pas de la même manière aux températures.
Donc vous allez survoler ce site gallo-romain, c'est ça, très très tôt le matin pour voir quoi, à la rosée, c'est à quelle heure que ça se fait ça?
Alors, c'est au lever du soleil, ouais. parce que c'est là où on a les différences d'inertie thermique les plus importantes des matériaux. Et ce qu'on devrait réussir à avoir quand le drone se pose et qu'on traite les images dans notre ordinateur, c'est une carte avec les températures de tous les points du sol. Et puis ça va être rouge aux endroits où c'est un petit peu plus chaud et bleu aux endroits où c'est un petit
Alors,
peu plus froid.
Pourquoi c'est important pour les archéologues de savoir, d'avoir cette vision comme ça numérique, votre travail? Pourquoi ils se mettent pas juste à creuser, à mettre à nu le, excusez-moi, je suis un peu à la.
Non mais c'est vrai.
Route, hein. Non mais c'est vrai. Pourquoi ils se mettent pas tout de suite à déblayer le
au
terrain
boulot, et, au boulot, les archéologues.
Et mettre au jour ces villages gallo-romains.
Sidonie, ça fait 6 hectares, c'est énorme.
Ah
c'est
d'accord. Creuser. Et puis d'accord. deux choses. Là, l'idée c'était de savoir si on aurait pu le découvrir par ces techniques-là, parce que nous on a une chance incroyable. On l'a survolé, c'était en 2011.
Donc c'est pour reproduire l'expérience.
C'est ça, on l'avait nous quand on l'a survolé en 2011, c'était le moment où il y avait exactement les bonnes conditions météo, il n'avait pas plu depuis suffisamment longtemps pour que les plantes aient besoin de chercher de l'eau en profondeur. C'est des conditions qui sont idéales, ça ne peut pas se reproduire tout le temps. Donc puisqu'on sait que là on l'avait déjà découvert, on veut voir si on aurait pu le découvrir autrement pour pouvoir le transposer dans d'autres zones
et créer une vraie technique de découverte pour aider les archéologues.
Bon, c'est passionnant et moi j'ai bien envie de savoir où vous allez ranger votre drone dans votre ULM, parce que ça fait quelle taille un drone? Réponse dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
Aujourd'hui, nous mettons le cap vers la Jordanie, au cœur du Moyen-Orient. Nous allons partir sur les traces de civilisations disparues.
Aujourd'hui, nous nous rendons à l'est du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent. Nous allons rencontrer une équipe de spécialistes des baleines.
Jusqu'à 22h,
notre voyage nous entraîne au cœur de l'outback australien. Nous mettons le cap sur Cobber Pedy, petite ville perdue dans l'immensité du désert.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Clémentine Bacry, Adrien Normier sont nos invités dans la curiosité pour parler de leur odyssée aérienne et scientifique des ailes pour la science. Il y a eu une première odyssée dont on vient de résumer quelques étapes, la Jordanie, l'Australie et tant d'autres pays. Vous étiez venu ici nous raconter ce premier voyage et vous repartez mi-janvier pour un autre tour du monde qui devrait durer 3 ans. On rappelle le principe. Vous aidez des scientifiques du monde entier grâce à un ULM hydravion qui prend des photos ou des images aériennes. Clémentine, vous êtes de formation plutôt littéraire, vous êtes avocate. Et comment vous êtes assurée, tiens, pour cette mission?
Les assurances, c'est une des grosses questions, ouais. parce que c'est une machine qui est pas commune. On va dans des pays assez loin et puis qui n'ont pas l'habitude d'être survolés par ce type de machine. Mmh. Et en plus, on va aller faire des choses un peu exceptionnelles. Aller survoler des volcans, aller survoler des glaciers, ça se fait pas tous les
et
jours.
Et vous trouvez des assureurs?
Mais justement, c'est une des grosses questions. Ouais. Et on a beaucoup de chance parce que on a depuis très peu un assureur, SOS Malus.
Ouais.
Et ça fait partie donc des partenaires qui soutiennent le projet. On est en train d'en chercher d'autres. Et là, on est très content d'en avoir, déjà trouvé.
C'est important. On rappelle le financement. Comment ça marche, tiens? Parce que c'est pas sur, j'imagine que vous êtes pas assez riche pour vous payer 3 ans de tour du monde en ULM. Donc
Et puis déjà l'ULM, parce qu'il faut le fabriquer. Alors, il est en cours de fabrication.
Nous, avec ce qu'on a mis de côté, on a mis l'argent pour l'ULM. Et ensuite, d'accord. avec les scientifiques, on a un deal. On travaille gratuitement pour eux. En échange, ils nous logent.
Ils vous nourrissent?
Ils nous nourrissent, ils payent l'essence. Donc en fait, quand on est sur place, quand on va passer un mois typiquement à cartographier une mangrove, c'est un mois où le budget nécessaire pour nous est zéro. On cherche des partenaires financiers pour couvrir tous les vols de convoyage du point A au point B. Là, typiquement aujourd'hui, SOS Malus, Groupe Vert Pyrénées nous donne un super coup de main parce qu'ils nous aident à couvrir tout ça pour la première année. C'est notre partenaire principal pour.
Et ça, c'est un gros budget, j'imagine, de payer une assurance de ce genre.
Bah là, c'est l'assurance plus les coûts opérationnels, oui.
Alors, pour bien comprendre, vous êtes Clémentine, vous avocate. Vous, Adrien, vous êtes ingénieur aéronautique. Mais en fait, vous travaillez toujours pour vos entreprises. Vous dites que vous partez en grandes vacances. Ça se passe comment?
Alors, non, parce que vous allez. Faut mieux que vos patrons nous écoutent pas, hein, parce que là, ça y est, ils sont au courant.
Alors, la première fois, on est parti pour 14 mois et j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis allée voir l'associé du cabinet d'avocats où je travaillais et que je lui lui expliquais ce que j'allais faire. Sa première réaction, c'était comment ça, tu t'en vas, mais tu vas voir quel concurrent. Quand je lui ai dit que c'était pas pour un concurrent, mais que c'était pour aller faire un tour du monde en ULM, il s'assit sur sa chaise, il m'a pas cru. Et puis quand je lui ai montré que c'était un peu réel, là, il m'a dit bon, ben, ça a l'air sacrément dangereux ce que tu fais. On aimerait bien que tu reviennes en vie, et on aimerait bien que tu reviennes avec nous, parce qu'on trouve ça chouette que tu t'investisses dans ce type de projet. Donc il m'avait gardé ma place.
Et donc là, ils vont faire pareil.
Là, c'est 3 ans. Ouais. 3 ans, c'est compliqué pour une petite boîte. Là, du coup, moi, j'ai démissionné. Mmh. Et en fait, en revenant dans 3 ans, ça sera le moment de lancer des nouveaux challenges.
Bon, voilà. C'est un beau projet. Et vous, Adrien ?
De mon côté, j'ai réussi à négocier avec mon DRH un congé sans solde de longue durée. Voilà, donc c'est une longue durée, un congé sans solde. Quand je reviens, si ma visite médicale est toujours bonne, je pourrais remonter dans un avion de ligne.
Parce que vous êtes pilote d'avion de ligne, c'est ça ?
Je suis pilote d'avion de ligne, tout à fait. Ouais.
On peut citer la compagnie aérienne ou pas ?
Une grande compagnie aérienne française.
Ah ben voilà, on l'aura reconnu. Tiens, le drone là, que vous embarquez à bord de votre ULM, il fait quelle taille ? Parce que je disais tout à l'heure, comment ça va rentrer dans les valises ?
Alors, lui, il fait 1 mètre d'envergure. C'est assez grand, mais en fait, il se plie, il se démonte en 3 morceaux.
Ouais.
Comment est-ce qu'il va rentrer dans les valises ? C'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, on a là, les gens de Parrot nous aident avec 2 drones. On en a un tout petit qui permet de porter une caméra, qui est dans l'univers. C'est pas un drone professionnel, c'est un drone qu'un enfant
ludique.
Ou qu'un ado peut avoir.
Ça tient dans la
Noël.
Main. C'est ça, vous faites le geste.
Ça tient dans la main. Là-dedans, il y a une petite caméra super stabilisée qui nous permet d'avoir des vidéos géniales. Et ça va être vraiment une caméra qu'on va embarquer pour documenter l'aventure. On détourne un peu cette caméra, on va pouvoir l'utiliser aussi pour faire de la modélisation tridimensionnelle de petites zones. Exemple, l'intérieur du cratère d'un volcan. On ne peut pas descendre avec l'avion, on ne peut pas descendre à pied, c'est trop dangereux. On peut envoyer le drone le faire. Bon, celui-là, on peut l'emmener dans nos bagages. L'autre drone, c'est un drone qui est celui qui fait 1 mètre d'envergure, qui est plus gros. Et lui, il emporte tous les capteurs spéciaux. Se promener avec un ULM autour du monde, d'un point de vue autorisation de vol, c'est déjà très compliqué. Si à ça on rajoute des capteurs, des caméras thermiques, tout genre de choses, là ça devient vraiment touchy. Donc on multiplie pas les problèmes, et ce drone-là nous rejoindra sur les projets de recherche où on a vraiment besoin de lui. À très haute altitude.
Vous lui passez un coup de fil, il arrive, c'est ça ?
Non, on passe par mon petit frère.
Ah oui, c'est vrai.
Qui prend un joli carton et qui met le drone dans un carton.
Et qui vous l'envoie.
Et qui nous l'envoie. Avec des prises
incroyable.
De tête pas possibles avec la douane derrière.
Bon,
il y a beaucoup de timbres. Au-delà des problèmes d'autorisation, il y a un problème de volume. C'est que de toute façon, on n'a pas la place pour le prendre
bien
avec
sûr.
Nous.
Bah oui, évidemment. Encore plein d'histoires à nous raconter. Vous revenez
dans un mois
ou début janvier, peut-être tout début janvier. Voilà, vous serez
à quelques
jours du départ. Et tiens, vous allez nous embarquer jusqu'en Polynésie, puisque ça fait partie de vos destinations. Rien que de dire le mot, je rêve. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Les ailes
à tous
pour
les
la
deux.
Science en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.